Bonsoir à vous tous. Dans mes années lycée, j'étais dans une classe de mauvais sujets qui était surveillée comme le lait sur le feu par une directrice surénervée. Avec ma copine Elisabeth, nous avions pourtant prévu de sécher une journée. Pour notre défense, nous n'avions guère de temps libre, nous avions cours le mercredi et nous étions collés tous les samedis. Notre projet n'étant pas exactement d'aller à la messe, il nous fallait un jour de semaine. Il nous suffisait de nous faire porter pâle. Mais comme notre surexcité de directrice téléphonait comme une furie aux parents à la moindre absence, il fallait bloquer son coup de fil, l'appelant avant qu'elle ne les appelle. Nous nous sommes entraînés des jours et des jours pour cet appel téléphonique. Notre texte était simple. « Allô, ici Madame Bréham, j'appelle pour vous dire que Noël ne pourra pas venir en classe aujourd'hui à cause d'une forte fièvre. » Elisabeth avait un principe qui me semblait judicieux. Quand on ment, ne pas donner de détails. Pour la voix, c'était dans la poche, j'avais beaucoup observé ma mère. Mon imitation était au point. Pour flouter le son, nous avions prévu un chiffon sur le téléphone. Le matin du grand jour, j'étais prête comme une athlète au JO. À 8h20, pétante, j'appelais notre chère directrice. Sans hésiter ni chevroter, le ton juste, parfait. Elle me laissa finir ma phrase et me répondit « Passe-moi ta mère immédiatement !»
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi quand on est adulte, on change de voix. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir ton question, pourquoi quand on est petit, on a une voix et quand on est grand, on change de voix. Comment et pourquoi ?
Bonjour. Docteur Jean Bitbol.
Bonjour Camille, bonjour Noam. Alors, pourquoi t'as pas la même voix que ton papa ou ta maman ? Ou ton grand-père, ou ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand t'es tout petit, t'as cette voix un peu fluette, et puis quand tu vas devenir un grand garçon, elle va devenir comme ça. Et puis quand on est une fille, ben également elle va changer. Ben tu sais, la réponse, elle est simple. C'est ce qu'on appelle les hormones. Alors ça veut dire quoi les hormones? C'est des substances qu'on a dans le corps qui vont apparaître à la puberté, c'est-à-dire entre 12 ans, 11 ans, 10 ans et 14 ans. Ça dépend en fonction de la génétique, c'est-à-dire de ta famille. Mais comment on sait ça? Par une histoire incroyable. C'est l'histoire des castrats. Alors qu'est-ce que c'est? Il faut que tu saches que au XVIIe siècle, donc ça fait bien longtemps, il y a des gens qu'on a, hélas, pour eux, eh ben on les a castrés, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé un organe qu'on appelle le testicule et on a complètement supprimé des hormones, c'est la substance qu'on appelle des hormones mâles. Et ces hormones, quand on les a enlevées avant la puberté, donc à l'âge de 10 ans, incroyable! Ces hommes en question, quand ils avaient 18-20 ans, avaient une voix de femme. Mais mieux encore, ils avaient une voix d'enfant, c'est-à-dire une voix très aiguë. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de ce qu'on dit, on dit dans notre jargon, une imprégnation hormonale. Si tu veux, on n'avait pas trempé, entre guillemets, des hormones dans le corps de ces gens-là. Donc la voix restait aiguë. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'enfant a une voix dans laquelle il n'y a pas d'influence des hormones dites sexuelles. C'est les androgènes pour l'homme, et c'est les œstrogènes et la progestérone pour la femme. Les androgènes vont donner une voix masculine, une voix d'homme. Et si jamais une petite fille devient une femme et qu'on a le malheur de lui injecter des hormones masculines, des androgènes, eh ben oui, elle va avoir une voix d'homme. En revanche, si une femme garde la progestérone et l'œstrogène, elle va garder sa voix de femme. Donc la voix change à cause des hormones. Alors tu vas me dire, oui, mais j'ai entendu dire que ça pouvait être les chromosomes, c'est-à-dire des éléments génétiques. Alors, eh bien, la prédominance de la hauteur de la voix, c'est d'abord les hormones et ensuite les chromosomes. On le sait grâce au castrat.
Le docteur Jean Abitbol, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, a écrit, entre autres, « Voix de femme » édité chez Odile Jacob. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, petits bateaux, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Vous avez demandé, entre autres, ce soir, Gérard a demandé « Pourquoi les chiens n'aimaient pas les cyclistes ?»
Bonjour, je m'appelle Flora, j'ai 8 ans et je voudrais savoir si c'est vraiment Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en premier. Merci de me répondre.
Bravo Flora, pour être journaliste, il faut toujours vérifier ces informations. Et c'est avec vous que nous allons le vérifier. Cyril Coutancet, directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine et auteur de ce livre édité chez CNRS Éditions, Les hommes et la mer. Alors elle aimerait bien savoir, Flora, si c'est vraiment, dit-elle, Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique.
Eh bien effectivement, Flora, tu as raison de poser cette question, parce que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert en premier l'Amérique. Alors l'Amérique était peuplée déjà quand Christophe Colomb est arrivé, donc ça veut dire qu'il y a des hommes qui avaient découvert l'Amérique d'une certaine manière avant Christophe Colomb. Mais pour la découverte de l'Amérique par la mer, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient précédé. Et alors les premiers, tu le connais peut-être justement, et c'est peut-être pour ça que tu poses cette question, ce sont les peuples polynésiens. Et quand je dis que tu les connais peut-être, parce qu'il y a un dessin animé qui est sorti il y a à peu près 2 ans, Vaiana. Et Vaiana, ça raconte cette histoire du peuple polynésien qui est parti des côtes asiatiques, de Taïwan on pense, et qui a traversé tout l'océan Pacifique, qui a peuplé toutes les îles du Pacifique, grâce à des bateaux extraordinaires qu'ils avaient inventés, des pirogues à balancier, grâce à des catamarans, et puis grâce aussi à quelque chose qu'ils ont découvert bien avant les Européens, bien avant nous, une capacité à se repérer en mer, c'est-à-dire que grâce aux étoiles, grâce au mouvement des vagues, grâce aux poissons, les poissons qui passaient dans telle zone à telle époque, etc., ils étaient capables de savoir très précisément où ils étaient. Ils étaient capables de retrouver les îles par lesquelles ils étaient passés, contrairement aux Européens qui, eux, ne savaient pas faire ça. Et donc les Polynésiens, ils ont peuplé toutes les îles de l'océan Pacifique. Et pour te donner une idée, ils sont arrivés sur l'île de Pâques, qui est l'île qui est la plus proche de l'Amérique du Sud, avant notre premier roi, le premier roi dont on se souvienne, avant Ukapé. Ukapé a été couronné en 987 et les Polynésiens ont débarqué sur l'île de Pâques aux alentours de 900. Et donc ils avaient déjà traversé tout l'océan Pacifique. Et évidemment, ils sont aussi arrivés en Amérique, ça on en a la preuve, on en a la certitude, puisque ils ont découvert en Amérique notamment quelque chose qui n'a poussé qu'en Amérique, c'est-à-dire la pomme de terre, et qu'ils ont cultivé par exemple dans leurs îles, dans les îles Cook, aux alentours de l'an 1000, la pomme de terre a été cultivée, c'était quelque chose qu'ils avaient ramené d'Amérique. Et ce ne sont pas les seuls à avoir découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Puisque on a des Européens qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, ce sont les fameux Vikings, ceux qui allaient sur nos côtes françaises et qui ont après se sont établis en Normandie. Eh bien, ils ont aussi découvert l'Amérique en passant par le nord, c'est-à-dire par le pôle nord, par le Groenland.
Un raccourci.
Et ils sont arrivés au Canada. Et ils ont commencé à s'établir un petit peu au Canada avant qu'il y ait une glaciation qui arrive et qui les oblige à partir. Mais ils avaient aussi découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Et on pense aujourd'hui, en fait, que Christophe Colomb savait qu'il y avait des terres à l'ouest parce qu'il avait lu ce qu'on appelle des sagas vikings, en fait, des histoires qui étaient racontées en Islande, dans tous ces pays nordiques, justement, sur ceux qui étaient partis à l'ouest pour découvrir l'Amérique. Et il a lu ces histoires et en mettant ça en relation avec d'autres choses qu'il savait, il a su qu'il y avait une terre à l'ouest.
C'est qu'il y avait quand même dans ces humains qui nous ont précédés il y a longtemps d'extraordinaires marins.
Oui, les peuples polynésiens, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas dans nos manuels d'histoire, alors que dans notre histoire de France, eh ben, il y a cette épopée polynésienne qui est quand même assez extraordinaire. Ils ont même été en océan Indien, puisque Madagascar, son peuplement d'origine, ce sont des Polynésiens. Donc ce peuple a traversé l'océan Pacifique, l'océan Indien, alors que nous, on était encore sur notre territoire métropolitain dans des temps très obscurs et pas du tout éveillés à ces savoirs.
C'était les ancêtres de nos 33 skippers qui sont partis tout à l'heure pour faire le tour du monde pour la course du Vendée Globe. Je rappelle que cette course est sans escale et sans assistance.
Personne n'est parfait, alors je...
Décidément, la lune et le soleil inspirent les chanteurs. Quelques années après, Charles traînait dans un genre quand même différent, Bonnie Banane, la lune et le soleil.
Les petits bateaux sur France Inter.
Et oui, les facteurs s'en sont beaucoup plaints de cette histoire de vélo et de chien.
Bonjour, je m'appelle Gérard, j'ai 69 ans. Cela fait plus de 60 ans que je fais de la bicyclette et du vélo. Et je voudrais savoir pourquoi les chiens n'aiment pas les cyclistes. Merci de me répondre. Au revoir.
Joël Dehaas, vous êtes cycliste. Non, je rigole, vous êtes vétérinaire. Vétérinaire comportementaliste.
Et cycliste par l'occasion.
Et cycliste, donc vous comprenez la question de Gérard?
Oui, je comprends bien la question de Gérard. Et en fait, le chien adore les cyclistes. C'est pas qu'il les aime pas, c'est qu'il les aime beaucoup. Parce que le chien, il est programmé instinctivement pour bouger, pour poursuivre ceux qui bougent. Alors que ce soit les cyclistes, que ce soit les trottinettes, que ce soit les voitures. Alors les chiens, plus les chiens prédateurs et les chiens de chasse et les chiens de berger. Que, bien sûr, les chiens de compagnie qui le font moins, mais on prend comme chien de compagnie pas mal de chiens de chasse et de chiens de berger. Donc, eux ont tendance à poursuivre tout ce qui bouge, et parfois, ils se disent, le cycliste, c'est beau, ça bouge, je le poursuis, et le chien satisfait son patron moteur. Patron moteur, c'est la petite séquence comportementale instinctive. Il satisfait le patron moteur de fixation oculaire, de poursuite, et parfois même de capture, en allant mordre dans les mollets du cycliste.
Il s'amuse.
Le chien satisfait ses besoins. Dans la vie actuelle, le chien n'a plus l'occasion. Hein. On prend un border collie qui peut plus satisfaire ses besoins de travailler au mouton. On prend un chien de chasse, un braque français par exemple, qui peut plus courir derrière le gibier. Mais on le prend en ville, on le prend ici, à Paris, n'importe où. Et puis qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui va bouger et qu'est-ce qu'il va pouvoir poursuivre? À part les cyclistes, les voitures, les joggeurs, les trottinettes, il n'y a pas grand-chose qui peut poursuivre à part les chats ou les pigeons.
Un border collie, Joël Dehaas, par exemple, puisque vous l'avez cité, ce chien qui n'a jamais vu un mouton de sa vie, il va avoir envie de poursuivre.
Le border collie a besoin de poursuivre, de contourner et de rabattre. Donc il va le faire avec n'importe quoi qui bouge. Avec les cyclistes, avec les voitures, avec les oies, avec les chats, avec les enfants.
Il est programmé.
S'il voit des moutons, il va le faire avec les moutons. Si c'est avec des vaches, il le fera avec des vaches.
Même si on lui a appris pour les vaches et les moutons, il le fera quand même avec autre chose.
Ah, s'il a appris pour les vaches et les moutons, il le fera plus avec les vaches et les moutons. Et s'il n'est pas satisfait, s'il est frustré parce qu'il n'a pas pu travailler pendant 3 semaines, eh bien, il le fera sur les cyclistes.
Le docteur Joël Dehaas nous recommande de jouer avec notre chien. Il a écrit « Tout sur la psychologie du chien » édité chez Odile Jacob.
Bonjour, je m'appelle Delphine. J'aimerais savoir si le cercle est une vraie forme géométrique. Parce que il n'est pas comme toutes les formes. Toutes les formes ont des coins. Alors est-ce que le cercle est une forme géométrique ? Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Delphine, c'est Michael Launay qui a fait une très jolie école, l'école normale supérieure en mathématiques, qui va te répondre. Et Michael a également créé une chaîne de vulgarisation qui s'appelle Micmat et que tu peux trouver sur YouTube. Alors Michael Launay.
Bien, bonjour Delphine. Alors, c'est une bonne question. Oui, le cercle est une figure géométrique. Mais on sent bien que quand on regarde les différentes figures, il y en a de différentes catégories. Effectivement, le cercle est un peu à part. Si on regarde par exemple aux autres figures telles que les triangles, les carrés, les rectangles, toutes ces figures effectivement ont des coins et ont des côtés qui sont droits. Le cercle, au contraire, appartient à une catégorie de figures qui sont les figures courbes, dans laquelle on trouve aussi par exemple les ellipses qui sont des cercles aplatis, ou alors les paraboles qui servent pour faire par exemple des antennes. Et alors, les mathématiciens au cours de l'histoire se sont posé beaucoup de problèmes sur ces figures courbes parce que c'est plus difficile de les étudier, par exemple, si on veut calculer leur longueur. Et alors, il y en a certains qui ont eu des astuces, qui ont trouvé des méthodes vraiment très astucieuses pour les étudier, notamment si on regarde les figures classiques. Par exemple, tu prends un triangle de 3 côtés, puis tu passes à un carré qui fait 4 côtés, puis à un pentagone régulier qui fait 5 côtés, puis un hexagone qui a 6 côtés. Et on augmente comme ça de plus en plus le nombre de côtés. Plus on augmente le nombre de côtés, plus la figure que tu as ressemble à un cercle. Si on regarde par exemple un chiliagone, c'est une figure qui a 1000 côtés. Eh bien, si elle a 1000 côtés, tous ces côtés sont absolument minuscules et on ne les voit quasiment pas à l'œil nu. Si tu regardes un chiliagone, à l'œil nu, tu as l'impression que c'est un cercle, alors que ça n'en est pas un. Et donc, d'une certaine manière, si on augmente de plus en plus le nombre de côtés pour avoir 1 million de côtés, 1 milliard de côtés, eh bien, on va se rapprocher de plus en plus du cercle de telle sorte que on peut dire d'une certaine manière que le cercle, c'est comme une figure classique avec des côtés, mais des côtés qui sont infiniment fins et il y en a une infinité. Ça, c'est une approche qui est très intéressante et qui a été étudiée notamment par plusieurs mathématiciens, par exemple Archimède dans l'Antiquité, qui a été un des premiers à étudier ça et à dire que le cercle pouvait s'étudier en prenant des polygones qui ont de plus en plus de côtés. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il a calculé la longueur du cercle qui se calcule avec le fameux nombre pi qui vaut 3,1415. Archimède a été le premier à trouver une approximation de ce nombre. Donc pi, c'est le nombre par lequel il faut multiplier le diamètre du cercle pour obtenir sa circonférence. Et puis après, au cours des siècles, il y a d'autres mathématiciens, notamment au XVIIe siècle, deux mathématiciens, un mathématicien anglais qui s'appelle Isaac Newton et puis un mathématicien allemand qui s'appelle Gottfried Leibniz, qui ont mis en place toute une théorie qui permet d'étudier les formes courbes. Et le principe de leur théorie, c'est de considérer que toutes les formes courbes, eh bien, sont en quelque sorte des figures qui sont formées d'une infinité de côtés, qui sont tous infiniment petits. Et c'est absolument passionnant de voir les choses comme ça.
Oui, c'est passionnant. Cette réponse de Michael Launay dans Les Petits Bateaux est à réécouter sur franceinter.fr. Vous vous souvenez, mille côtés, le chiliagone, on peut dire aussi chiliogone, me dit Marjorie. Chi, c'est C-H.
¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of something.
C'était Madonna sur France Inter où vous avez la très bonne idée d'écouter Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Capucine et j'ai 9 ans et j'aimerais savoir, comme il y a des gens qui disent qu'il faut couper les ongles au ciseau et d'autres qui disent qu'il faut les limer, j'aimerais savoir qui a raison. Merci, au revoir.
Bonsoir Capucine, on est en plein dans le thème de votre livre, Dr Sophie Gottmann, Vos ongles, tout un monde. Que répondriez-vous à Capucine ?
Eh bien, je lui répondrais que on ne se coupe pas les ongles de la même façon aux mains et aux pieds, et en fonction de qui on est. Aux mains, pour se couper les ongles, un petit ciseau courbe, c'est bien. Je préfère ça qu'un coupe-ongles ou qu'une pince à ongles qui fracture brutalement les ongles, qui les tord. On peut aussi, surtout quand les ongles sont fragiles, c'est pour ça si c'est d'une personne qui n'a pas les ongles fragiles ou une personne qui a des ongles striés et fragiles, je préfère la lime à ongles, éventuellement une lime en carton toute simple, que l'on passe de gauche à droite et de droite à gauche, plutôt que de haut en bas, pour rétrécir les ongles régulièrement.
Donc, on récapitule, votre préféré c'est la lime, après c'est le petit ciseau, après c'est la pince, et en dernier le coupon.
Voilà.
C'est une très mauvaise nouvelle, parce que c'est pratique le coupon.
Aux orteils par contre, les ongles sont plus épais, plus résistants, moins cassants, en général moins fragiles. Et là, on peut utiliser pince à ongles, coupon, ciseau ou lime. J'insiste sur une chose très importante, le coupon, c'est bien, mais c'est pas très précis. Au gros orteil, il est très important de garder ses ongles carrés, de ne pas retirer les ongles, car l'ongle est une plaque de kératine dure qui maintient les chairs molles en place. Il faut garder les ongles pour éviter que la chair ne se resserre et qu'à la repousse, l'ongle l'embroche, qui fait un ongle incarné. Donc la forme de l'ongle est importante à maîtriser au gros orteil. Il faut donc un instrument précis. C'est pour ça que je trouve que la pince est un petit peu plus précise que le coupe-ongle. Les ongles maintiennent les chairs en place et préviennent l'ongle incarné. Le deuxième élément qui est important, c'est que l'ongle au niveau du gros orteil doit être court devant. Quand vous butez dans votre chaussure, il ne faut pas que ce soit l'ongle qui bute, mais la chair du repli distal, la chair au bout. Ce qui fait que chez certaines personnes, pour à la fois avoir un ongle court devant et que les angles soient en place, on est obligé de les encocher vers l'intérieur, ils sont en arc de cercle.
Dites-moi, il arrive, puisque je vous tiens, docteur Sophie Gutmann, il arrive parfois qu'on perde un ongle au doigt de pied, aux orteils, pardon. Oui. Pour un médecin, vous dites pas les doigts de pied.
Par exemple, après un marathon, après une course.
Un choc, un
objet qui tombe. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas?
Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est d'attendre un minimum de repousse, et à peu près à mi-chemin, on peut faire poser un faux ongle.
Au doigt de pied?
Oui, par un pédicure podologue. Ce faux ongle va maintenir les parties molles en place et va permettre la progression de l'ongle naturel.
Donc en dessous, l'ongle, sous le faux ongle, le vrai ongle en dessous, il avance.
Le vrai ongle emporte le faux ongle vers l'avant et descend avec lui.
Comme on fait pour avoir des ongles de diva sur les mains. Le même principe.
Alors pour en revenir à la coupe des ongles, je peux aussi vous dire qu'autrefois, la coupe des ongles était assortie de présages et de menaces des plus invraisemblables.
Ah bon ?
Dans tous les pays, toutes les régions, on avait des jours pour se couper les ongles. Au XVIIe siècle, en France, on ne se coupe pas les ongles les jours qui contiennent un R, parce que ça porte malheur. Autre exemple, au début du siècle, dans le Petit Guide du Bonheur, en 1908, si vous vous coupez les ongles le lundi, vous serez en bonne santé. C'est important en ce moment. Peut-être qu'on a tout intérêt en ce moment à se couper les ongles.
Le lundi,
hein, le lundi.
Mais oui.
Si c'est le jeudi, vous aurez une paire de bottines neuves. Il y avait énormément de croyances. Au Portugal, on ne se coupait pas les ongles le samedi parce que le diable coupait les siens. Aux États-Unis, si vous les coupiez le dimanche, vous appeliez la malchance pour toute la semaine. Il y avait des présages incroyables sur les jours de coupe, les lieux où on se les coupait. Pas la nuit, parce que sinon la nuit, ça va conduire à la folie. Ça, c'était dans les Vosges. Il y a tout un tas de croyances qui avaient cours et qui régissaient la coupe des ongles.
C'est dire, docteur Sophie Gutmann, la place que prennent les ongles dans notre vie quand même.
On ne réalise pas l'importance d'avoir des ongles en bonne santé pour notre bien-être. Tant au niveau des mains que des pieds. On marche avec nos pieds, donc on est content d'avoir des ongles indolores. Et on touche, on caresse, on communique avec nos mains. La main est une partie du corps qui sert à notre relation au monde, à notre relation à autrui. Si nos ongles sont très abîmés et pas jolis à voir, on passe sa vie à les cacher, c'est compliqué.
Et puis surtout avec des ongles, on peut défaire des nœuds et on peut griffer. Je vous rappelle le titre du livre du docteur Gutmann, « Vos ongles, tout un monde », édité chez Actes Sud. Je vous invite à regarder le docu-fiction de Patrick Cabouatte, « Le tragique destin des Romanov », jeudi prochain, 12 novembre, à 9h25 sur Arte et quand vous voulez sur arte.tv. Il retrace la révolution russe de 1917 grâce à différents extraits de films, mais surtout, ce documentaire nous montre comment la famille impériale, elle, a vécu les événements. Cette vision de l'intérieur se fait grâce au précepteur des enfants, Pierre Gilliard, qui a eu la bonne idée non seulement de tenir un journal, mais aussi de prendre des tonnes de photos. Ce qu'il y a de très touchant, c'est que ce précepteur extérieur à la famille, de nationalité suisse, va rester avec les Romanov jusqu'au bout. Il vivra, alors qu'il n'y était pas obligé, en captivité avec ses employeurs. Au début, dans des maisons somptueuses, avec des gardes courtois, puis dans des conditions matérielles très dures, avec des gardes brutaux, jusqu'à l'exécution de la famille impériale, le 16 juillet 1918, à Yekaterinbourg. Pierre Gilliard restera encore pour en enquêter et finira par retrouver les dépouilles des Romanov, mal ensevelies dans la forêt. Je vous préviens, la fin de ce documentaire est assez macabre. Le tragique destin des Romanov.
Voici l'abécédaire de l'équipage des petits bateaux. Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, Arnaud Caillé, Marjorie Defoucou. Vous pouvez réécouter et podcaster ces petits bateaux par franceinter.fr. Le journal de 20h, vous retrouverez Jérôme Garcin avec le masque et la plume. Il sera avec Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Éric Neuhoff et Pierre Murat. Donc vous avez déjà deviné, le masque et la plume de ce soir sera consacré au cinéma. Quant au petit bateau, eh bien nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30.